Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et si Bachar el-Assad et les responsables de Daesh étaient un jour jugés pour leurs crimes, improbable aujourd'hui, presque saugrenu au regard de la tournure des événements en Syrie et des procédures expéditives de la justice irakienne, cette éventualité n'est pourtant pas totalement irréaliste. Bonjour Philippe Sands.
Bonjour.
Vous êtes avocat spécialisé dans la défense des droits de l'homme, vous êtes professeur de droit à l'University College de Londres et vous avez publié un ouvrage important sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Retour à Lemberg chez Albin Michel, mais tout d'abord la possibilité de juger Bachar el-Assad, est-ce réaliste selon vous?
C'est pas totalement exclu, mais comme vous avez dit, c'est improbable. Il faut se souvenir que l'idée de la justice internationale date d'une période très récente. Ça a commencé en 1945 à Nuremberg, après l'année d'après on a eu Tokyo, et pour 50 ans après il n'y avait rien jusqu'à l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Et après, tout s'est mis en marche. Tribunal pénal international, les procès de Yougoslavie, de Rwanda. Et l'idée est arrivée en 98. En fait, j'étais à Londres au moment où l'ex-président Pinochet a été arrêté. Mmh. Et tout a changé à ce moment-là.
Pourquoi?
Parce que ça a mis 50 ans après le procès de Nuremberg pour que l'idée de la justice se met vraiment en marche d'un aspect pratique. Pinochet était à Londres, il s'est fait arrêter un vendredi matin, le 16 octobre 98. Il s'attendait pas du tout, et c'était les grands principes de Nuremberg qui l'ont attrapé. Et à ce moment-là, tout a changé pour tout ex-président. Ils ont aperçu la réalité. On peut se faire arrêter 25 ans plus tard.
Quand vous parlez de principe de Nuremberg, est-ce que cela signifie aujourd'hui que la notion d'universalité de l'être humain, et cette notion qui pourrait finalement permettre d'inculper Bachar el-Assad, est-ce aujourd'hui une notion communément admise ou bien le poids politique des États empêche-t-il à cette justice de passer?
Pour moi, le grand principe de Nuremberg, c'est l'idée que tout être humain à la possibilité d'être soumis à la justice internationale. C'est-à-dire, l'idée qu'on était une fois un président ou un empereur ou un roi n'exclut pas la possibilité qu'on peut être soumis à la justice. Et ça, c'était vraiment un moment tout à fait révolutionnaire. C'est vraiment la première fois dans l'histoire de l'être humain que cette possibilité existe. Et ce changement va mettre du temps à vraiment s'élaborer. Comme je dis à mes étudiants à Londres ou à Paris, le droit international, c'est un long jeu. C'est un jeu qui va durer des siècles. C'est pas demain que tout va changer. Et c'est dans ce contexte qu'on doit regarder un peu ce qui se passe en Syrie et en Irak aujourd'hui.
Alors justement, qu'est-ce qui serait imaginable dans ce contexte-là, par exemple, pour le cas de Bachar el-Assad?
L'idée qui est exclue, c'est que la Cour pénale internationale à La Haye ait donné une compétence autour de ce qui se passe en Syrie et en Irak. Pourquoi? Parce que le Conseil de sécurité voterait toujours contre. Les Russes, les Chinois sont contre, les Anglais, les Français, les Américains plutôt un peu pour, mais pas avec une grande énergie.
Pourquoi justement pas avec une grande énergie? Parce que c'est un peu la duplicité des puissances occidentales.
Un mot très simple, la politique. Si on soumet Monsieur Assad à la justice internationale, il y a d'autres aussi. On peut parler de l'Arabie Saoudite au Yémen, on va parler de toute l'histoire Israël-Palestine. Où est-ce qu'on met une ligne? Et c'est ça vraiment le grand problème, c'est de créer des précédents qui auront une vie que les grands États, les grandes puissances ne peuvent plus contrôler.
Ce qui signifierait que s'il existait une justice véritablement internationale, il y aurait des principes au-dessus de la politique auxquels les politiques devraient soumettre, Philippe Sands.
Et exactement. Dans le pays que je connais le mieux, c'est-à-dire l'Angleterre, on a quand même mis 4 ou 5 siècles pour vraiment avoir ce moment. Souvent, quand j'étais jeune professeur à Cambridge, j'avais un collègue qui était prof de droit anglais, English Legal History, le droit de l'histoire en anglais. Il me disait toujours, ah oui Philippe, ces questions de Nuremberg, ces questions de droit international, on avait exactement les mêmes problèmes en Angleterre au 15e siècle. On a mis 300 ans pour régler ces questions.
Pourquoi au 15e siècle?
Parce que ça prend du temps. L'idée que le roi peut être soumettre la justice au droit interne, c'est nouveau, c'est tout récent.
Justement, quels seraient les crimes de Bachar el-Assad? Est-ce que le fait de s'en prendre à son peuple, est-ce que le fait d'utiliser des armes qui sont normalement des armes prohibées pourrait être retenu, ou bien s'agirait-il d'autres qualificatifs, Philippe Sand?
Parlons des armes chimiques. C'est complètement contraire au droit international d'utiliser ces armes. Là, on parle de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et possiblement même crime de génocide. Ça dépend sur les faits, mais au minimum crime de guerre, crime contre l'humanité.
Crime de guerre, est-ce que ça signifie aussi que des guerres seraient envisageables? Parce que on a beaucoup discuté de la notion de guerre juste. Si les puissances occidentales ne veulent pas de cela, eh bien peut-être ne le veulent-elles pas tout simplement parce que cela pourrait freiner également les guerres qu'elles entendent mener?
Alors, il y a eu un grand débat il y a quelques jours en Angleterre et en France sur la réponse militaire du Royaume-Uni, des États-Unis et de la France. Et j'ai écrit un petit article là-dessus. Je comprends tout à fait ce sentiment de vouloir faire quelque chose en Syrie. Mais si on fait quelque chose, on fait vraiment quelque chose. Ça veut dire on n'envoie pas 10, 15 bombes comme ça pour essayer de changer la truc. Et j'étais plutôt contre ce qui s'est passé, non seulement au niveau politique, mais aussi au niveau juridique. Parce que...
Pourquoi ?
Parce que l'argument britannique, je ne sais pas exactement ce que les Français ont argumenté, c'était qu'il y avait un droit d'intervention humanitaire. Et c'est-à-dire qu'on a le droit d'utiliser recours à la force pour protéger les droits de l'homme. Je suis pas contre cette idée, pas du tout. En 1999, j'étais pour, quand ça s'est passé en ex-Yougoslavie et la question du Kosovo. Mais là, en Syrie, en ce moment, il faut vraiment se poser la question, est-ce que ça peut vraiment aider? Est-ce que ça peut vraiment assister? Est-ce que ça va vraiment prévenir l'utilisation des armes chimiques? Je doute.
Alors, la conséquence, et d'ailleurs, vous l'avez dit, Philippe Sands, tout à l'heure, si on jugeait Bachar el-Assad, il faudrait aussi juger tous les dirigeants qui, aujourd'hui, ont, sur une région ou une autre du globe, des comportements criminels. Les dirigeants saoudiens pour le Yémen, par exemple.
Les dirigeants saoudiens pour le Yémen, mais pourquoi pas aussi aller un peu en arrière. La guerre contre l'Irak en 2003.
Pourquoi
pas Tony Blair? C'est clair qu'il n'y avait pas de base juridique pour ce qui s'est passé en 2003. George W. Bush et Tony Blair, ils sont passés là-bas. Et M. Bush aussi pour la question de la torture dans la période de l'après 11 septembre.
Mais alors, dans ces deux cas, premier cas, on considère que tous les moyens sont bons. On considère peut-être à tort, mais que tous les moyens sont bons pour défaire une tyrannie. Philippe Sands, on a tort?
On a tort parce que y a des limites pour défaire une tyrannie. Et là, on revient aux années 30. Et on se pose la question, qu'est-ce qu'on aurait fait, qu'est-ce qu'on aurait dû faire aux années 30 contre Hitler? Et là, il y a quand même un grand changement. Aux années 30, en fait, comme j'ai mentionné, jusqu'à 1945, un État avait droit à traiter ses citoyens comme l'État voulait le faire. C'était vraiment, il n'y avait pas de limite. Alors, à ce moment-là, aux années 30, on ne pouvait pas dire au niveau du droit international, Monsieur Hitler, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites contre certains de vos citoyens. Tout a changé après 1945. Mais les changements n'ont pas allé jusqu'au point où il y a une acceptation générale pour dire recours à la force au moment où un État utilise des mesures, des actions contre ses citoyens. Il y a toujours des limites et la souveraineté continue à exister.
Dans le cas d'Abu Ghraib ou de ces tortures qui ont été perpétrées par des soldats qui sont des soldats, en l'occurrence américains, on ne peut pas dire que les gouvernements américains aient délibérément voulu ces tortures, comme par exemple Hans Frank, dont on reparlera, le nazi qui a été responsable de l'extermination des juifs en Pologne, était évidemment un subordonné du régime nazi. Ça n'était pas le cas à Abu Ghraib.
À mon avis, à Abu Ghraib et à Guantanamo, c'était le cas. C'était intentionnel. Il y avait un programme de torture. J'ai écrit un livre dessus qui s'appelle Torture Team et qui a décrit exactement comment ça s'est passé en novembre 2002, dans le bureau de M. Donald Rumsfeld, de faire une sorte de planning pour ces formes de torture.
Alors c'était... Donc on pourrait juger ces responsables américains ?
Absolument, à 100%.
Dans le cas de la question israélo-palestinienne, aujourd'hui, il y a par exemple des incidents, des échanges de tirs du côté de Gaza. Échanges de tirs, d'ailleurs, le terme est impropre, puisque ce sont des soldats israéliens qui tirent sur des civils désarmés. Est-ce que l'on pourrait juger les responsables israéliens,
Philippe? En principe, oui, tout État et tout individu est soumis à l'idée du droit international. Il y a des limites à ce que l'individu a le droit de faire, qu'il soit israélien, palestinien, anglais, saoudite, ça ne change absolument rien. Les principes sont vraiment généraux et universels. Le problème, c'est l'application des principes.
Alors, pourquoi ne fait-on pas cette même application? Si Pinochet, par exemple, a pu être arrêté à Londres, je crois qu'il y a un certain nombre de plaintes qui ont été lancées contre des dirigeants israéliens, contre Benjamin Netanyahou. Pourquoi, par exemple, ne pas profiter de la prochaine visite de Benjamin Netanyahou à Londres pour le juger?
Parce que ça, chaque question tournera sur les faits précis et où la visite aura lieu. Après l'histoire Pinochet, le droit anglais a changé. Alors, il y a une distinction entre un président ou un premier ministre et un ex-président ou un ex-premier ministre. Alors, on a le droit d'arrêter en principe en droit anglais un ex-président ou un ex-premier ministre, mais celui qui est, au moment de sa visite, président ou premier ministre, ça, c'est pas permis.
Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça devienne permis? C'est bien entendu quelque chose d'utopique dans ce contexte de l'imaginer, mais on se dit finalement que s'il y avait une justice internationale qui fonctionne véritablement, par exemple dans le cas israélo-palestinien, celle-ci pourrait servir la paix.
D'abord, je dirais qu'il faut protéger l'acquis, qui date déjà depuis 1945, parce qu'il y a un programme en ce moment pour aller en arrière, pour emmener le monde retour aux années 30, où toutes ces règles de 45, le Charte des Nations Unies, les droits de l'homme, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, qu'on enlève tout ça de nos livres, qu'on évite ces règles, qu'on les fait partir. Alors d'abord, il faut protéger ce qu'on a obtenu et après travailler pour marcher en avance, pour mieux appliquer les règles. Mais ça va prendre du temps. On peut pas s'attendre à changer les règles en 45, à un certain moment, et imaginer que d'ici 10 ans, 100 ans, tout va changer. Ça prend du temps.
Mais vous restez quand même optimiste parce que on se dit aujourd'hui qu'avec la situation en Syrie, avec le jeu de Vladimir Poutine, celui de Donald Trump, la justice internationale va peut-être subir de profonds revers. Celle-ci qui pouvait être considérée comme quelque chose de précieux va devenir un obstacle pour tous ces dirigeants.
Regardez, la semaine dernière, j'ai passé en visite à Istanbul pour donner une conférence pour World Press Freedom Day. Et j'ai pris l'occasion pour aller visiter un ami emprisonné, un écrivain, un grand écrivain, Ahmet Altan, un journaliste, qui est condamné à vie en prison pour ce qu'il a dit sur un programme de télévision. Et pendant la conférence, on m'a posé plein de questions. Monsieur Sands, avec votre Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, la Turquie fait partie de ce système, il y a des jugements, ça n'a rien changé en Turquie, ça n'a rien changé à Istanbul. Pourquoi vous êtes optimiste? Parce que c'est un long jeu, parce que c'est un politique à long terme pour l'idée de la justice et pour l'idée des règles. Ça ne va pas tout changer demain, mais il ne faut pas, parce que ça ne va pas changer demain, dire simplement ça ne vaut pas la peine. Ça vaut la peine, mais c'est, comme on dit en anglais, a long game.